Moi, s'il y avait une partie de mon identité que je ne voudrais pas changer...
La partie de mon identité que je ne veux pas changer...
Ce serait mon côté gentil dans toute situation.
C'est mon prénom et mon apparence.
C'est un trait de caractère que je veux conserver chez moi, c'est ma détermination. Je le veux, je l'aurai.
Par contre, ce que j'aimerais vraiment changer, c'est mon instabilité émotionnelle, devenir constant.
Et une partie de moi que j'aimerais vraiment changer par contre, c'est ma peur d'interagir avec les autres.
Ma naïveté avec les garçons.
Moi, quand je réfléchis, je veux rien conserver. Je veux tout changer.
Même si c'est pas ce que disent mes amis.
Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, notre nouvelle émission de l'atelier de la Maison des Adolescents porte aujourd'hui sur le thème de l'identité. Comment on se présente aux autres, comment on se définit nous-mêmes, comment ça évolue en permanence. Et vous l'avez entendu, ce thème n'est pas si facile et ça évoque une partie d'intime. Alors pour traiter ce sujet, et pour parler notamment du rôle qu'on joue en société, on a choisi d'inviter quelqu'un qui joue plusieurs rôles. Une autrice, metteuse en scène, comédienne, il s'agit de Perrine Fèvre. Alors on vous a défini par vos professions, mais on pourrait être plus direct. Qui êtes-vous ?
Alors je suis une femme, en tout cas je me définis comme ça, j'ai 46 ans, en ayant entendu un petit peu les mots que vous avez dit, m'ont ému. Je suis aussi quelqu'un de beaucoup dans l'émotion. Et même quand on grandit, ça passe pas forcément. Voilà, peut-être si je devais dire comme ça, à chaud.
En tant que comédienne, d'où vous est venue l'envie ou le besoin de jouer des personnages ?
Alors, je dirais qu'il y a un peu deux phases. Quand j'étais jeune fille, jeune femme, que j'étais un peu dans le fantasme de même, voire même du cinéma, enfin, voilà, oui, j'avais envie de jouer des rôles, donc des gens qui étaient très loin de moi. Voilà, donc j'ai joué plusieurs choses en tant que comédienne. Peut-être on en reparlera de ce que ça fait aussi. Mais après, je sens que ce qui a pris le pas sur mon envie d'être comédienne, c'est aussi plus le fait d'avoir envie de fabriquer des spectacles qui, je pense, j'imagine, ont un impact dans la vie des autres, dans la vie politique, des choses qui sont urgentes à dire, à mettre, à partager, comme un miroir commun. Et donc là, c'est disons que je suis passée un peu plus sur quel rôle je veux jouer, quel spectacle je voudrais qu'il existe pour le partager au monde.
Est-ce qu'une part de toi existe encore quand tu interprètes un rôle ? Par exemple, est-ce que tu es vraiment en colère quand tu interprètes la colère ?
Effectivement, quand on est en colère... Quand on pleure, c'est vraiment, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je traverse des états absolument vrais. C'est une vraie colère. Et d'ailleurs, moi, il y a des émotions dans la vraie vie que j'arrive pas à exprimer. Et après, sur ce qui reste une part de moi, c'est qu'est-ce que je vais aller quand je sais que ce personnage, il va... très triste, par exemple. Je sais que je vais aller convoquer des choses qui m'appartiennent de manière très intime pour aller chercher ce sentiment. Peut-être ça, c'est le chemin. Mais une fois que j'y suis, c'est le personnage qui est triste.
Dans vos créations théâtrales, il y a beaucoup de personnages. D'où viennent-ils ? Est-ce que vous les inventez ou est-ce qu'ils sont inspirés des faits réels ?
Beaucoup des spectacles qu'on fait aujourd'hui, c'est d'abord une phase où moi, je m'immerge dans des réalités qui peuvent être, on va parler du spectacle qui est en train de se jouer sur, par exemple, la justice. J'ai passé 14 mois dans des tribunaux à regarder comment les choses fonctionnaient, à choper le réel, des scènes entre une maman et son ado, entre un juge et quelqu'un qui est à la barre. Et puis, de tout ça, ça devient une matière, ça devient des personnages, effectivement, et après, on essaye de les mettre sur scène, de les pousser un peu plus, de les sculpter, de leur trouver un corps, des costumes, voilà, toutes sortes de choses qui font que ça devient du théâtre.
À force de vouloir plaire aux autres, je me perds, je m'efface. Chaque jour, je me plie à leurs attentes. Je change mon visage, mes mots, mes gestes, juste pour qu'ils m'acceptent. Mais plus j'essaye, plus je sens ce vide grandir en moi. J'abandonne des morceaux de qui je suis, dans l'espoir qu'ils trouvent en moi quelque chose de mieux. Pourtant, c'est moi qui en paye le prix. Je ne me connais pas. C'est comme si en cherchant l'approbation des autres, je m'étais trahi moi-même. À l'extérieur, tout semble aller bien. Les autres me voient comme quelqu'un de drôle, toujours de bonne humeur. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Chaque sourire est un mensonge. Chaque éclat de rire est une manière de détourner l'attention, de cacher ce vide immense qui me ronge. Tout ça, c'est l'art de faire semblant, de continuer à fonctionner tout en se sentant brisé. Tu t'efforces de ne pas laisser paraître ta douleur parce que tu ne veux pas inquiéter les autres, parce que tu as peur d'être un fardeau. Ou peut-être parce que tu ne sais même plus comment exprimer ce que tu ressens vraiment. Chaque jour devient une bataille silencieuse où tu continues à afficher ce masque, par habitude, par survie. Les autres pensent me connaître alors qu'ils ne voient qu'une façade, ce masque que je porte pour correspondre à ce qu'ils attendent. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que je ressens vraiment. Je suis une étrangère pour eux, et pour moi-même. J'ai du mal à me cerner et à me comprendre. J'ai passé tellement de temps à cacher cette partie de moi que je ne sais même plus où commence la vraie version de moi-même. En essayant de me protéger des autres, j'ai fini par me perdre un peu en chemin. Ils croient comprendre mes rires, mes silences, mes choix, sans se douter que chaque geste est calculé pour ne pas décevoir et pour ne pas être rejeté. Ils ne savent pas à quel point je me cache, à quel point chaque mot que je prononce est souvent l'opposé de ce que je voudrais vraiment dire. Et ça se trouve, c'est aussi valable pour les mots que vous venez d'entendre.
T'es qui toi ? Bah moi. Et toi t'es qui ? Bah toi. Bah alors, je suis moi ou je suis toi ? Oula, je m'y perds moi sur le concept d'identité.
Moi j'ai l'impression que ce que les gens voient de moi, ça correspond pas à qui je suis vraiment. La plupart se trompent sur mon caractère en particulier. Beaucoup me croient impulsif, une partie de ma famille notamment. Et ils pensent que je suis comme ça partout. Alors oui, certes, ils m'ont vu nerveux, un peu agressif, et ils m'ont catalogué comme ça. Mais c'était il y a longtemps, et ils avaient rien compris du contexte à l'époque. Ils n'ont pas vu combien j'ai changé. Ils se confortent dans leur opinion, en se répétant cette période, sans se rendre compte que j'ai eu le temps de bouger. Ils ne m'enlèveront jamais l'étiquette qu'ils m'ont posée. En réalité, moi je sais que je ne suis pas celui qu'ils croient. Au fond, je suis plutôt un calme. La question, c'est comment je pourrais arriver à le leur prouver un jour. Et si j'arrive pas, tant pis pour eux.
Pensez-vous que l'image que vous renvoyez aux autres correspond à la personne que vous êtes ?
Plus ou moins. En tout cas, personnellement, j'essaye de faire en sorte que ce qui est direct chez moi soit l'image que je transmets, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on a toujours son petit jardin secret, quoi.
Oui, je pense.
Alors, c'est compliqué parce que, comme je suis sur le spectre de l'autisme, je suis pas sûre de moi. Donc je pense pas vraiment que ce que je renvoie, ce soit vraiment qui je suis. J'y arrive pas, en fait.
C'est aussi surtout que le physique, en soi, ce qu'on renvoie, des fois, on peut pas le changer. Moi, des fois, j'ai l'impression que mon esprit n'est pas d'un accord avec mon image physique. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. En soi, je peux changer de cheveux ou de vêtements, mais en soi, il y a toujours cette frustration que j'ai pas choisi le corps dans lequel j'habite, quoi.
Oui, est-ce que vous avez l'impression de jouer des rôles pour entrer en relation ?
Je pense vraiment qu'on joue tous un rôle avec tout le monde. C'est inévitable, je pense, mais après, c'est quand on apprend à vraiment connaître la personne qu'on peut arrêter de jouer ce rôle.
L'entrée au lycée, où on joue complètement un rôle et ça prend beaucoup de temps de se dire en fait, je suis pas obligé d'être un rôle et d'être mal dans ma peau pour être accepté par des gens.
Oui, quand on est inscrit sur un site internet, par exemple, on joue un rôle quand même pour essayer de plaire, pour essayer d'être le mieux possible, donner le meilleur de soi-même.
Surtout professionnellement, j'ai l'impression de tout le temps jouer un rôle parce que les gens, ils sont jamais contents. Voilà, donc tout le temps.
Est-ce que vous pensez que le regard qu'on porte sur quelqu'un peut changer cette personne ?
Oui, ça peut jouer énormément. Enfin, moi, je sais que je suis un peu influençable par rapport à ça et que même des gens que je connais pas, ça va me travailler. Mais après, ça dépend, ouais. Si on a la force de prendre le recul sur ce que la personne nous dit ou pas, ça peut changer en bien ou en mal une personne, ça peut donner confiance, comme ça peut faire perdre confiance en soi.
Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des compliments gratuits dans la vie. Ça veut dire que on peut faire plaisir à quelqu'un, même que l'on ne connaît pas beaucoup, en lui disant quelque chose de gentil, je trouve ça très important.
Quand on me parle de l'identité, le personnage qui me vient en tête, c'est le Joker. Vous savez, le méchant d'un Batman. Ils ont même fait un film dessus pour décrire sa personnalité.
Ma mère, Elle me dit tout le temps de sourire.
Tout le monde le juge trop vite, se moque de lui et l'humilie.
De faire bonne figure.
Alors qu'il est malade. Tout le monde le prend pour un fou jusqu'à ce qu'il le devienne vraiment.
Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Je pense que c'est un peu sa façon de se venger contre cette société très superficielle qui a parfois tendance à juger beaucoup trop vite les autres.
Qu'est-ce qui te fait rire ?
Le Joker était gentil à la base. Mais il est devenu ce qu'il est aujourd'hui car les gens l'ont toujours abaissé. Peut-être que si quelqu'un avait su le comprendre et le valoriser, il aurait sa place parmi les autres.
Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un ?
Si j'étais un objet, je serais une montre pour arrêter les aiguilles.
Je serais un ordinateur pour qu'on tape sur le clavier.
Je serais un livre, comme ça je peux voyager autant que je veux sans bouger.
Si j'étais un objet, je serais une machine à tisser pour rassembler différentes couleurs.
Je serais un livre pour vivre mon histoire comme je le veux.
Si j'étais un son, je serais du rap pour que les jeunes m'entendent.
Je serais la pluie, car c'est un bruit assez répétitif et calme.
Si j'étais un son, je serais un mélange de musique triste, nostalgique, sentimentale ou bien énergétique. Ou peut-être je ne serais que un son qui tourne dans ma tête.
Je serais une anachide parce que c'est doux et apaisant.
Si j'étais un son, je serais une infrabasse pour vibrer.
Si j'étais un animal, je serais un raton laveur, car c'est un animal qu'on juge sale.
Je serais un koala, parce que j'aime bien les
koalas. Je serais un aigle royal, car c'est le symbole des pays de l'Est.
Si j'étais une couleur, ça serait le noir, parce que je vois tout en noir en ce moment.
Je serais le vert, car c'est une couleur que j'apprécie beaucoup, et qui est aussi la couleur du printemps.
Si j'étais une couleur, je serais le orange, car c'est une couleur joyeuse, mais pas trop.
Je serais orange, pour avoir l'air d'un fruit.
Si j'étais un animal, je serais un hibou, pour voler toute la nuit.
Si j'étais un mot, je serais le mot monotone, car j'aime sa sonorité, qui est elle-même monotone.
Si j'étais un élément, ça serait l'eau, pour remplir les lacs et les rivières, parce qu'il en manque avec le changement climatique.
Si j'étais un mot, je serais le mot bourbier. Il n'y a pas besoin de préciser pourquoi.
Si j'étais un mot, ça serait mot, parce que j'aime les répétitions.
Si j'étais une personne célèbre, je serais un animateur radio.
Portrait chinois.
Parfois, je me surprends à me demander qui je suis. Parce qu'en quelque sorte, je suis la personne que j'étais il y a quelques années et celle que je suis aujourd'hui, ou encore celle que je serai demain. C'est pourtant toujours moi, face à mes amis, ma famille, livrée à moi-même. Mais parfois, je ne sais pas. Je suis quelqu'un et c'est tout. On tente tous d'être quelqu'un, non ? Quelqu'un de bien, d'heureux, de cool. Mais en plus, on essaie de ne pas être quelqu'un d'ordinaire. Bref, c'est sacrément difficile. D'autant qu'on n'est jamais satisfait en plus. Mais qu'est-ce qu'on peut être ? Et qu'est-ce qu'il faut être ? Tout, rien. On est censé tenir en une pièce, mais on est en morceaux. On est fait de tellement de choses. Les choses qu'on aime, les gens dans notre vie, les moments vécus, les sensations ressenties, nos idées, nos pensées, nos passions et nos peurs. Les mots ne suffisent pas à nous décrire. C'est sans doute grâce à tout ça que nous sommes uniques, que nous ne sommes pas quelqu'un d'ordinaire.
Identité.
Est-ce que dans la vraie vie, vous avez l'impression parfois aussi de jouer des rôles ?
Oui. Donc oui. Par exemple, il y a tout mon rôle social professionnel, c'est-à-dire que, disons que dans mon réseau de travail, la compagnie, elle est plutôt reconnue. Je dirige cette compagnie, donc joue un rôle de toujours être hyper en maîtrise, qu'il n'y a pas de problème, que... je sais où je vais, tout ça. Et ça, des fois, c'est très pénible parce qu'en fait, dans la vraie vie dans moi, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ce boulot, c'est qu'on fait le choix, malgré tout, de s'exposer, de se montrer aux autres, de prendre la parole aussi face au monde et tout. Et du coup, on est visible et on est aussi très sollicité. Et c'est vrai que des fois, par exemple, pour donner un exemple, dans des endroits où on sait qui je suis professionnellement, on va me parler que du travail, par exemple. Et alors, la compagnie, machin. Et après, la question de l'intime, en fait, on le cache de plus en plus. Et du coup, les gens ne viennent pas le chercher. voilà, des fois, on disparaît un peu derrière ce rôle.
Est-ce que vous trouvez que, en étant comédienne, c'est plus facile de jouer des rôles face aux gens dans votre vie de tous les jours?
On pourrait croire que oui, et en fait, non. Par exemple, sur la question de parler en public, voilà, on se dit, une comédienne, c'est bon, quoi. Parler en public, c'est cool. Et par exemple, dans le milieu familial, quand il y a un mariage, un enterrement, une fête, on se dit, ah, c'est bon, vas-y, Perrine, c'est toi qui prends la parole. Et, ça. Et en fait, c'est une catastrophe. Plus j'ai l'impression d'avancer dans l'âge et plus je me sens pas super en maîtrise de mon émotion, bah, je suis la pire. C'est-à-dire que dès que je me retrouve dans le cercle perso, intime, je pleure, je renifle, j'arrive pas à aligner trois mots. C'est un savoir-faire dans son métier, mais qui, bizarrement ou pas, n'est pas vrai dans la vie.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Ben, moi, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Et j'ai trouvé toutes vos questions, votre écoute aussi... très agréable à vivre et aidante aussi, parce que vous posez des questions intimes, c'est pas rien. Je vais vite avoir très envie d'entendre aussi vous ce que vous allez dire sur tout ça.
Je voulais être quelqu'un qui plaît à tout le monde. Ça ne me correspondait pas. Je me cherchais des figures populaires, des personnes célèbres vers qui je pouvais me projeter. Je voulais leur ressembler, être eux. Puis ça a été chez certains profs que je m'inspirais. D'ailleurs, j'avais souvent un running gag avec mes potes. Je disais, tiens, lui c'est un peu comme mon père spirituel. Tiens, lui c'est un peu comme mon troisième père spirituel. Tiens, lui c'est un peu comme mon quinzième père spirituel. C'était des figures. Dorénavant, j'ai l'impression de chercher à être la personne que je veux être moi. Mais je reste influençable. Je continue de prendre mes sources un peu partout pour ne pas ressembler ni être, mais tirer le bon de chacun. Maintenant, je veux surtout ne pas être quelqu'un de mauvais. Et ça, ça me définit beaucoup. C'est phobique chez moi. Ne pas être mauvais. Rien que ça.
Et voilà, notre émission sur l'identité se termine à l'instant. Et pour la construire, j'aime autant vous dire qu'on s'est posé un tas de questions. Sur nous, sur notre image, sur les autres, bref, sur tout ce qui nous construit.
Pour réaliser cette émission, il y avait Julien, Liam, Carmen, Mathieu, Dina, Melvin et moi, Yann.
Un grand merci à Perrine Peb de la Compagnie des Arroseurs pour avoir répondu à nos questions.
À Manon et Célia de Wakaji.
Ça veut dire on a quelque chose à dire.
Et à Jean-Jacques de l'atelier radio de la MDA. À bientôt!
À bientôt!